Géopolitique. Marie-France Chatin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. La Pologne s'apprête à élire son président dans un contexte politique, social et géopolitique particulièrement chargé. Depuis plusieurs années, ce pays de 35 millions d'habitants joue un rôle clé au sein de l'Union européenne, tant par sa position stratégique à l'est du continent que par ses choix politiques souvent clivants. La présidence sortante a été marquée par des tensions autour de l'état de droit, de l'indépendance de la justice et de la place des médias à l'international. La guerre en Ukraine a renforcé le rôle de la Pologne comme acteur central du flanc oriental de l'OTAN, mais a aussi exacerbé certaines contradictions internes. Alors que le parti conservateur au pouvoir cherche à maintenir son influence et que l'opposition espère capitaliser sur les récentes mobilisations démocratiques, le scrutin s'annonce décisif pour l'avenir de la démocratie polonaise, son rôle en Europe et sa position sur l'échiquier mondial. L'enjeu de politique intérieure est fondamentalement lié à la trajectoire démocratique du pays, ce qui fait de ce scrutin un test crucial. Regard avec nos invités qui sont tous les deux au téléphone depuis la Pologne, depuis Varsovie, Pierre Buller, ancien ambassadeur de France en Pologne de 2012 à 2016, enseignant de relations internationales à Sciences Po, son dernier ouvrage « Pologne, histoire d'une ambition » paru aux éditions Thaïlandier. Bonjour Pierre Buller.
Bonjour.
Merci de nous donner ce temps pour Géopolitique. Et Jacques Rupnik, également au téléphone, professeur à Sciences Po, spécialiste de l'Europe centrale et orientale, auteur de nombreux ouvrages dont Géopolitique de la démocratisation, l'Europe et ses voisinages aux presses de Sciences Po. Bonjour Jacques Rupnik.
Bonjour.
Cette élection présidentielle est un test crucial, je le disais en introduction, pour la Pologne, sorte de pivot entre deux visions de la démocratie. Le président sera soit un contre-pouvoir au gouvernement de Donald Tusk, à la tête de l'exécutif depuis décembre 2023, soit un allié. Le scrutin est-il avant tout un référendum sur l'état de droit et la démocratie libérale? Et que peut-on dire du paysage politique en cette veille de scrutin, Pierre Buller?
Oui, je crois qu'il y a un élément effectivement de référendum sur le gouvernement Tusk, qui est en place depuis pratiquement 18 mois, et qui, à grand-peine, essaie de rétablir précisément cet état de droit sans l'enfreindre, ce qui est une gageure. Donc, il se trouve que depuis la prise de pouvoir, la victoire électorale de Donald Tusk et de sa coalition, ce pays vit dans une cohabitation, dans une cohabitation difficile et très, je dirais, frictionnelle, avec un président donc du parti pour droit et justice, qui n'a pas de pouvoir propre important, mais qui a un pouvoir, un grand pouvoir, qui est le pouvoir de veto, le droit de veto sur la promulgation des lois et sur les nominations. Et donc, cette cohabitation est difficile et le gouvernement est relativement paralysé aujourd'hui pour avancer sur son programme et notamment la libéralisation de la loi sur l'avortement, ce qui lui est reproché par ceux qui l'ont soutenu. Donc, l'enjeu est considérable et une nouvelle cohabitation serait extrêmement dommageable pour le projet de Donald Tusk et de sa coalition.
Un enjeu considérable, Jacques Rupnik, qu'est-ce que vous partagez? Et finalement, quel bilan peut-on faire de la présidence Duda?
La présidence Duda a eu deux phases, on peut dire, celle où son parti était au pouvoir, le parti PiS, le droit et justice de Kaczynski, et donc il y avait là, disons, une sorte d'harmonie entre le gouvernement et le président. Et le président a joué surtout un rôle en politique étrangère, mais relativement limité en politique intérieure. Par contre, il a, comme ça vient d'être mentionné, un rôle en politique intérieure depuis que la deuxième phase de sa présidence est intervenue. Et c'est le moment de l'alternance où le parti de Donald Tusk a gagné les élections, pris le pouvoir. Et on a cette cohabitation très tendue parce que le pouvoir, comme ça a été dit, le pouvoir du président, même s'il n'est pas celui d'un président français, mais quand même, il contresigne les lois, les nominations, etc. Et donc, je crois que ce qui est en jeu là pour Donald Tusk, c'est de transformer l'essai. En gros, ils ont gagné les législatives, ils ont entamé les réformes, ils ont commencer le démantèlement de ce qu'on appelle une démocratie illibérale héritée du parti Droit et Justice, mais voilà, transformer l'essai. Pour pouvoir parachever cela, ils ont besoin d'un président qui soit en phase avec le gouvernement, et ça a l'air bien parti, si on en croit les sondages, mais il faut parfois s'en méfier. Mmh,
tout à fait. Alors, transformer l'essai, on en vient maintenant peut-être, et c'est important à ce stade, de la présentation des candidats. Ils sont trois principaux candidats en présence. Alors, vous me pardonnerez, je pense que les prononciations ne sont pas bonnes, mais je sais que vous saurez les rectifier, Pierre Buhler et Jacques Rupnik. Donc, d'un côté, Rafał Trzaskowski, qui est maire de Varsovie, le candidat de la plateforme civique. Donc, finalement, c'est un allié de M. Tusk, favori dans les derniers sondages avec 38,3% des voix, même si les sondages, Jacques Rupnik, vous venez de le dire, ne sont pas toujours très fiables. Et face à lui, Karol Nawrocki, qui est le candidat indépendant du Parti conservateur Droit et Justice. Et puis, Slawomir Mentzen, de l'alliance d'extrême droite, Confederacja. Pierre Buhler, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de chacun de ces candidats? Et finalement, on l'a bien compris, en tout cas, si les sondages venaient à être confirmés, il faudra un deuxième tour pour ce scrutin présidentiel en Pologne, Pierre Buhler.
Oui, ça, il est très probable qu'il y aura un deuxième tour. Alors, bon, je connais d'ailleurs Rafał Trzaskowski, ce qui est la bonne prononciation en polonais, et qui était ministre délégué aux Affaires européennes dans le gouvernement de Tusk, qui est donc jusqu'à une pleine confiance en lui. D'ailleurs, il s'est présenté contre le président Duda en 2020. Il a perdu de quelques pourcents seulement, 1 ou 2%. Et aujourd'hui, maire de Varsovie, alors c'est quelqu'un d'intellectuellement brillant, qui parle 5 langues en plus du polonais, qui est une sorte de cosmopolite très pro-européen, ce que lui reproche d'ailleurs l'angle d'attaque de Droit et Justice, des deux autres partis contre lui, c'est qu'il est trop cosmopolite, il est trop vert, il est trop ceci, il est trop cela, mais c'est bon, c'est quelqu'un qui a les épaules très solides. Karol Nawrocki, alors lui est un historien qui n'est pas membre de Droit et Justice. J'ai découvert récemment qu'on lui avait confié la direction du musée de la Deuxième Guerre mondiale à Gdansk, qui est un musée lancé par Donald Tusk, qui vient de Gdansk, et dans le cadre de sa politique historique, le Parti Droit et Justice voulait complètement reformater le musée pour en faire une sorte de mausolée presque à la gloire de l'héroïsme polonais, ce qui n'était pas le but originel. Nawrocki donc a dirigé l'Institut de la Mémoire Nationale, qui est une sorte d'archive, mais qui a eu des buts politiques, et il est beaucoup moins charismatique que Trzaskowski. Et il traîne quelques casseroles, si je puis me permettre cette expression. Et lui, évidemment, que les camps adverses ne se font pas faute de mobiliser. Le dernier, Slawomir Mentzen. Lui, c'est un jeune entrepreneur richissime qui a. Ils sont tous les trois docteurs, d'ailleurs, en histoire, en économie, et qui a choisi une voie libertaire, mais. Donc, qui dirige ce parti d'extrême droite, mais d'extrême droite radicale, qui s'appelle Confédération, qui est à la fois, d'ailleurs, il l'avait dit, ce qu'on ne veut pas en Pologne, c'est des juifs, c'est des homosexuels, c'est des impôts et c'est l'Union européenne. Bon, ça reste peu ou prou, même si c'est maudit moins ouvertement, le programme de Confédération. Donc, le jeu final se fera au deuxième tour, évidemment, parce qu'il est peu probable que Trzaskowski l'emporte au premier tour.
Alors, effectivement, et je me tourne vers vous, Jacques Rupnik, la question par rapport à ce deuxième tour, c'est est-ce que, donc face au maire de Varsovie, Trzaskowski, qui est, je le redis, crédité de 38% à peu près des suffrages, tandis que Slawomir Mentzen aurait à peu près 14% des intentions de vote, et le conservateur nationaliste Nawrocki environ 25%. Est-ce qu'on peut imaginer une alliance de Karol Nawrocki et Slawomir Mentzen qui, pour ce dernier, ses électeurs, me semblent avoir possiblement un rôle de faiseur de roi, Jacques Rupnik?
Oui, vous avez raison de dire que c'est ça la vraie incertitude du second tour. Si on regarde simplement les chiffres maintenant, on a l'impression que Trzaskowski sera élu et donc il n'a pas pour le moment à un rival à sa hauteur. Cela dit, dans les débats télévisés, Navrotsky, c'est paraît-il, je n'ai pas vu le dernier débat, mais s'est montré meilleur qu'on ne le pensait, très, très sûr de lui, face à un Trzaskowski qui, justement, est un intellectuel. Il a ce côté libéral, mais qui n'est pas forcément ce qui mobilise un électorat. Et donc, ce que l'inconnu du deuxième tour, vous l'avez mentionné, c'est le comportement des électeurs de l'extrême droite. Là aussi, leurs scores sont assez bons lors des dernières élections. Ils sont entre 12, 10, 12, 13%, et donc ils peuvent faire la décision. Voilà, donc c'est le report des voix au second tour qui est intéressant. Et je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'il donc, il y a un enjeu de consolidation démocratique interne, donc hein, c'est ça que j'appelais le transformer l'essai de l'alternance, et c'est un enjeu important. Hein. Par les temps qui courent, ce n'est pas seulement important pour l'Europe centrale, hein, Orban, Hongrie, Fico en Slovaquie, mais par rapport à ce qui se passe en général dans nos sociétés, y compris aux États-Unis. Donc le Trumpisme et les Trumpismes et les disciples ou les imitateurs de Trump en Europe. Donc ça, c'est un enjeu démocratique interne. Et puis un enjeu européen. Car la Pologne, bon, elle préside l'Union européenne, la présidence tournante de l'Union européenne en ce moment, mais bien entendu, elle joue un rôle très important, comme on le sait, dans le dispositif européen par rapport d'aide à l'Ukraine. Et ça, c'est depuis le début de la guerre, depuis le printemps 22. Donc, la Pologne, progressivement, a assumé ce rôle crucial d'aide militaire, économique, humanitaire, etc. Elle a reçu plus d'un million de réfugiés ukrainiens et je pense que ça, c'est véritablement un enjeu pour cette élection aussi. C'est pas que la position polonaise changerait par rapport à la guerre, mais par rapport à l'Europe, par rapport à la place, à la façon dont le gouvernement actuel cherche à répondre à la guerre en Ukraine, à la guerre russe en Ukraine, par une démarche européenne. C'est ça le sujet. Et on a vu l'illustration parfaite de ce que je viens de dire. Eh bien, c'est le récent voyage à Kiev des dirigeants européens. Et vous aviez là Emmanuel Macron, Donald Tusk, Merz, le nouveau chancelier allemand, et le Britannique Starmer. Donc, ce que vous aviez là, les trois que j'ai mentionnés, membres de l'Union européenne, c'est le triangle de Weimar. Paris, Berlin, Varsovie. Voilà l'axe européen pour construire une stratégie face à la guerre russe en Ukraine. Donc ça, c'est le second enjeu de cette élection, à mon avis aussi important que le premier, et bien sûr, il se complète. Si vous avez une démocratie illibérale en Pologne, ou quelque chose de ce type-là, beaucoup plus difficile de construire, disons, un triangle de Weimar, une coopération Paris-Berlin-Varsovie, où il y aurait véritablement une divergence sur les termes, sur la démocratie que l'on veut défendre.
Mais bien sûr, on l'a bien compris, cette élection est à voir comme un test pour la santé des démocraties européennes, dans un contexte, vous l'avez dit, Jacques Rupnik, de montée des droites souverainistes. Alors, on détaillera bien sûr les aspects de politique étrangère que vous avez évoqués, mais finalement, Pierre Buhler, quelle place la politique étrangère a-t-elle joué dans cette campagne présidentielle polonaise? Quelles sont les priorités des électeurs polonais en cette veille de scrutin?
Alors, je dirais qu'il y a un consensus assez large sur la nécessité de soutenir l'Ukraine et d'armer la Pologne. Il y a aussi une dimension de politique étrangère. Et cette logique d'armement de la Pologne, de montée en puissance imposante, très spectaculaire, de la Pologne sur le plan militaire, en budget de défense. Il a doublé pratiquement l'espace de deux ans. Ça a été lancé par droit et justice et poursuivi sur sa lancée par le gouvernement Tusk, ça, si vous voulez, ça fait partie du consensus. Qui est ce sur quoi il y a une divergence, et Jacques Rupnik vient de le souligner, c'est le rapport à l'Europe. Pour le parti droit et justice, et même pour l'extrême droite, ils ont une voix dans leur radar que les États-Unis. Ils ont des yeux de chimène pour Washington, malgré tout ce qui se passe à Washington. Et d'ailleurs, le candidat de l'extrême droite, donc Menzen, lui, c'est un fan, si je puis dire, de Donald Trump et d'Elon Musk. Alors que, disons, cette propension, cette inclination, cette sympathie pour l'Europe de la coalition actuelle est dénoncée par le Parti droit et justice, en disant, ben voilà, vous nous asservissez à l'Union européenne, la souveraineté en est diminuée. Ce que je vois, c'est que la Donald Tusk, lui, sans le moins du monde renoncer à l'alliance avec les États-Unis, en prenant bien garde de ne pas affaiblir l'OTAN et le couplage de sécurité transatlantique, il poursuit une politique tous azimuts. Partenariat avec la France, hein, on vient de voir sa signature de ce traité de Nancy il y a quelques jours, partenariat également avec l'Allemagne, avec le Royaume-Uni, il est allé à la rencontre du groupe NB8, ce sont les Nordiques et les Baltiques, on voit plusieurs formats, au-delà de Weimar, on voit des formats qui se constituent avec des ministres de la Défense qui se réunissent en ce que j'appelle Weimar Plus, mais la géométrie est un peu variable, parfois il y a toujours l'Italie, le Royaume-Uni est agrégé, parfois l'Espagne, et pour essayer de mobiliser tous ceux qui partagent la même vision quant à l'agression russe en Ukraine, et également pour prendre le contre-pied de ceux qui, dans l'Union européenne, ont les pieds sur le frein. On a cité Orban, on a cité Fico, et lorsque demain les résultats du scrutin seront proclamés en Roumanie, on risque d'avoir de nouvelles surprises. Donc il y a plusieurs démarches parallèles. J'ajouterais que tout ce qui est également arrivé à rétablir une relation de confiance avec l'Union européenne, avec la Commission notamment, qui avait été très très abîmée par le précédent gouvernement et qui a permis à la Commission de libérer une centaine de milliards d'euros de fonds de cohésion et autres.
Alors, on a fait de la géopolitique assez vite et c'est très bien. On reviendra peut-être aussi sur la question que je posais précédemment, c'est finalement les électeurs polonais. Quelles sont les priorités pour eux? On a parlé des migrants, des réfugiés, ukrainiens en Pologne. Et la question de la migration est un sujet là aussi important dans cette campagne qui a eu lieu en Pologne précédant cette élection présidentielle de demain, on y revient dans quelques instants. Ruszamy w dal, zaklęciem otwieram drzwi, bogini w nas, buzuje ze wszystkich sił. Ty siostrę masz we mnie dobrze, wiesz, w ciemności za dłoń pochwycę cię, bądź pewna, że nie zgubisz się. Nie, nie. Ramię w ramię popłyniemy razem, zmieniamy ten świat, wspierając się tak, bo żadna dama nie będzie tańczyć sama, gdy sióstr tyle ma, gdy jest pośród nas, więc moja miła tańcz. Opa! Jak róży cierni i słowa rano. Vicky Gabor et Kaya Ramier, nous parlons Pologne aujourd'hui à la veille de l'élection présidentielle avec Pierre Buller, ancien ambassadeur de France en Pologne, et Jacques Rupnik, qui est professeur à Sciences Po, spécialiste de l'Europe centrale et orientale. Jacques Rupnik, on l'a compris au niveau macro, finalement, l'enjeu de ce scrutin, c'est le rôle de la Pologne dans la géopolitique au sens large et plus étroitement dans l'Union européenne. Et sur le plan intérieur, parmi les enjeux de ce scrutin, la sécurité, bien sûr, les relations internationales, on en a dit quelques mots, les migrations et l'aide aux centaines de milliers de réfugiés ukrainiens en Pologne. L'Ukraine joue un rôle important dans ce scrutin, Jacques Rupnik.
Oui, l'Ukraine joue un rôle important, je dirais, indirect, ce n'est pas le thème central, bien entendu, mais vous avez dit migrants et frontières. Il y a la frontière avec l'Ukraine où il y a une guerre, mais il y a aussi la frontière avec la Biélorussie, qui est la frontière par laquelle arrivent d'autres migrants. Il y a ceux qui arrivent d'Ukraine ou qui sont arrivés en 22, surtout dans la première phase, et certains sont restés en Pologne, mais d'autres sont allés ensuite vers l'Allemagne ou d'autres pays de l'Union européenne. Donc là, il y a, sur près de 2 millions de migrants qui sont arrivés en Pologne, il y en a peut-être la moitié qui sont restés. Mais il y a l'autre frontière avec la Biélorussie, pays totalement aligné sur Moscou, sur la politique de Poutine. Et donc là, il y a eu la migration comme instrument de pression ou de déstabilisation d'un pays de l'Union européenne. C'est en tout cas comme ça que le voient et le présentent les Polonais. Ils ont construit une clôture le long de cette frontière pour empêcher des migrants que le régime biélorusse, avec l'aide de Moscou, importait, entre guillemets, du Moyen-Orient, et qu'ils envoyaient ensuite sur la frontière polonaise. Et évidemment, ces migrants étaient utilisés comme des pions, comme des leviers, mais cela a permis à Tusk d'occuper un créneau important, de montrer qu'il est ferme sur la question de la frontière, des migrants, etc. Pourquoi c'était important, de son point de vue, ne pas laisser de place aux pistes à la droite nationaliste sur ce terrain-là. Et en fait, on peut dire que toute la stratégie électorale qui est maintenant dans sa phase finale, je crois, pour le candidat de la plateforme, pour le candidat qui est proche du gouvernement Tusk, c'était ne pas laisser de place à l'opposition sur la question des migrations, mais aussi sur la question de l'Europe et de la souveraineté. Bien sûr qu'il y a un rapprochement avec l'Europe et avec, Donald Tusk, ancien président du Conseil européen. Il connaît parfaitement les rouages de l'Union, il connaît et il a rétabli, comme ça a été dit, la relation avec l'Allemagne, avec la France. Bon, Weimar est de retour. On pourrait dire ça comme ça. Exit Visegrad, le groupe de Visegrad.
Vous nous rappelez ce qu'est
l'ancienne alliance. Le groupe de Visegrad, c'est les pays d'Europe centrale, Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, dont le partenariat Orban-Kaczynski était un des éléments dans la période antérieure. Bon, avec la guerre en Ukraine, divorce total entre la Pologne et la Hongrie, entre Orban et Tusk, bien entendu. Donc, divergence sur la question de la démocratie dite illibérale, selon Orban, et divergence sur l'agression russe. Donc, Visegrad vole en éclats, avec les Slovaques qui se rapprochent de la Hongrie et les Tchèques qui sont proches de la Pologne. Voilà, donc Visegrad exit, explosé. Par contre, Weimar de retour. Mais quand je dis retour en Europe ou retour au cœur de l'Europe, de la Pologne, avec quand même pas mal de réserves, parce qu'on a vu aussi que Tusk, par exemple, ne souhaitait nullement, dans le cadre des débats sur l'élargissement possible à l'Ukraine, il ne souhaitait nullement développer le vote à la majorité qualifiée, il ne voulait surtout pas d'un nouveau traité, et je crois que là, ce n'est pas seulement peut-être pour des raisons tactiques, ne pas laisser de place aux souverainistes dans une phase préélectorale, mais je crois que ça fait partie de ses convictions. Voilà, il a une vision de l'Europe qui est une vision où l'Europe doit être forte, mais elle est forte des États-nations qui la composent, en gros.
Et quelques mots, peut-être, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Jacques Rupnik, à propos de l'Ukraine et de la future intégration de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Je ne sais pas qui voudra répondre, si c'est Pierre Buhler ou vous-même, mais c'est un sujet, cette question de l'intégration de l'Ukraine au sein de l'UE en Pologne.
Ah, je pense que oui, c'est un sujet politique, bien entendu, un enjeu politique. La Pologne a été la première à dire, en réponse à l'agression russe, il faut ouvrir la porte de l'Union européenne à l'Ukraine. Ce n'était pas une évidence, parce que l'Ukraine faisait partie de la politique dite de voisinage, dont l'objectif n'était pas l'intégration dans l'Union européenne. Hein, donc c'était un voisinage de l'Union européenne, mais pas adhésion à l'Union européenne. Donc la Pologne a beaucoup milité pour qu'il y ait cette perspective. Elle a même exigé ou encouragé l'idée d'un, ce qu'elle appelait fast track, voilà, une accélération du processus. Mais ensuite, on a vu que dès qu'on parlait des aspects concrets de ce que ça pouvait représenter, ben nous l'avons vu au cours de l'année dernière, quand les paysans polonais bloquaient la frontière ukrainienne parce qu'ils considéraient que l'importation du blé ukrainien au sein de l'Union européenne était une concurrence déloyale. Il faut rappeler que l'Ukraine avait obtenu de l'Union européenne la possibilité d'exporter ses biens sur le marché européen sans droit de douane. Par ailleurs, il y avait le blocus de la mer Noire et le transit donc par l'Europe et par la Pologne en premier lieu des produits agricoles. Donc les agriculteurs étaient fâchés, les camionneurs de même. Et par la suite, et ça fait partie de la campagne électorale actuelle, Navrotsky, qui est un historien de formation, Karol Navrotsky, le PiS, comme la Confédération, beaucoup moins, ou disons plus, sur un ton beaucoup plus civilisé, si j'ose dire, de la part de Trzaskowski, mais la Pologne pose la question aux Ukrainiens de la confrontation avec leur passé de la Deuxième Guerre mondiale, surtout le massacre en Volhynie de 100 à 150 000 Polonais par les nationalistes ukrainiens, et que bien entendu l'adhésion ou le rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne signifie être capable de dialoguer avec son voisin et confronter son passé. Et donc soudain la question de ce passé ukrainien qui ne passe pas, a refait surface. Et donc, on voit, après l'enthousiasme initial pour l'adhésion accélérée de l'Ukraine, toute une série de réticences qui nous font anticiper ce que pourra être une négociation ukrainienne à l'Union européenne, où la Pologne ne sera pas forcément le soutien le plus enthousiaste. Ça sera beaucoup plus prudent, je pense.
Alors,
je ne sais pas ce qu'en pense notre...
Pierre Buhler, que vous souhaitez ajouter, compléter, contredire
je crois que Jacques Rupnik a très bien explicité la situation. Ce que j'ajouterais, un petit point de détail, c'est que... Et le PiS, qui n'était déjà plus au pouvoir, mais surtout le gouvernement de Tusk lui-même, son vice-premier ministre, ont établi clairement un lien entre l'acquiescement de la Pologne à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et une sorte d'acte de contrition sur les fameux massacres de Volhynie. Donc la mémoire, l'utilisation politique de la mémoire, je pense qu'ils l'ont fait pour, précisément comme le disait très justement Jacques Rupnik, ne de pas laisser d'espace politique à la droite nationale populiste, de faire ses choux gras de cette question. Bon, c'est vrai, c'est un passé qui ne passe pas, et je crois que ça continuera, ça fait partie des ombres un peu portées sur la relation future entre la Pologne et l'Ukraine. J'ajouterais également que si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, la Pologne se retrouvera qui était Pologne, qui est un peu le poids lourd de cette partie de l'Europe aujourd'hui, se retrouvera avec un autre poids lourd, et notamment sur le plan militaire, qui aura une expérience infiniment plus convaincante de ce qu'est la sécurité, de ce qu'est la défense.
Alors, ce sera intéressant également peut-être d'aborder les questions de politique intérieure pour bien comprendre ce qu'est la Pologne aujourd'hui. Est-ce que finalement, il n'y a pas deux Polognes qui s'affrontent dans ce scrutin de demain, l'une conservatrice, patriote, souvent catholique, majoritaire dans les zones rurales, et puis une Pologne plus libérale, européenne, urbaine, active dans les grandes villes. On en parle dans quelques instants. Morceau de jazz de Tchaïkovski, qui est le père du candidat, donc ce scrutin de demain, qui est le maire de Varsovie. On a un petit peu parlé des origines des uns et des autres. Et bien voilà, le maire de Varsovie avait un père qui était musicien. La question, des valeurs sociétales dans ce scrutin, je le disais, deux Polognes qui s'affrontent, l'une conservatrice, l'autre plus libérale, européenne. Pierre Buller, vous avez des choses à nous en dire?
Oui, alors non, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde une carte électorale de la Pologne, qu'on peut, en différenciant par des couleurs les différents partis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sorte de diagonale entre le nord-est et le sud-ouest, plus bien sûr les grandes villes. À l'ouest, au nord-ouest, ces diagonales, c'est plutôt de vote coalition civique, et au sud-est de cette diagonale, c'est-à-dire l'ancienne partie russe de la Pologne est partagée, la partie autrichienne, la Galicie, c'est un vote qui est plus droit et justice. Ce qu'il faut également avoir présent à l'esprit, c'est que dans la société polonaise, il y a une sécularisation qui a été assez rapide, et même qui a été accélérée par le Covid. Pendant l'épidémie de Covid, les gens ne fréquentaient plus les églises, et puis ils ne sont pas revenus massivement. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la jeune génération se sécularise très très vite. Si on regarde le vote des Polonais, on voit que le vote PiS est beaucoup plus âgé que le vote coalition civique. Et en même temps, dans les jeunes hommes notamment, votent, c'est vraiment le vivier électoral de Confédération.
Donc extrême droite.
De l'extrême droite. Alors, oui. C'est encore plus à droite, c'est plus radical, plus xénophobe, plus antisémite, anti-ukrainien aussi. Ça, c'est le carburant politique des différents partis. Et je dirais que cette polarisation se fait autour de thèmes sociétaux et notamment autour du droit à l'interruption volontaire de grossesse, que Tusk a promis de libéraliser, alors que bon, même dans une partie de sa coalition, il y a une opposition à cela. Mais l'emprise de l'Église, et notamment après des scandales de pédophilie qui ont été dévoilés, elle s'est fortement affaiblie. L'Église a été un peu, je dirais, le ciment de la résistance et de l'opposition au communisme. Elle a essayé d'en prendre, si je puis dire, les dividendes. Et je crois qu'il y a aussi un élément de ressac vis-à-vis de cette posture.
Jacques Rupnik, vous souhaitez ajouter quelque chose sur ces questions?
Écoutez, presque tout a été dit. Oui. J'ajouterais peut-être, que ce rôle de l'Église polonaise, alors... Il était important, pas seulement dans la période communiste, c'est quelque chose historiquement. Dans les partages de la Pologne de la fin du XVIIIe siècle, entre la Russie, la Prusse et l'Autriche, et ça fait allusion aux deux Pologne, hein, les deux Pologne électoralement, quand vous regardez la carte des élections présidentielles de 2015, c'était Komorowski contre Duda, ou de 2020, où c'était Duda contre Trzaskowski déjà, vous avez la carte, bon, c'est les deux Pologne, et ça recoupe, ça serait trop beau si c'était parfait, mais ça recoupe assez bien la partition de la Pologne de la fin du XVIIIe siècle. Et pendant toute la période où la Pologne disparaît de la carte, hein, où la fameuse phrase d'Alfred Jarry dans Ubu Roi, ça se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part. Bon, la Pologne avait disparu de la part d'un pays hein, qui était une grande puissance et qui disparaissait de la carte. Et pendant toute cette période où la Pologne avait disparu de la carte, l'Église a joué le rôle véritablement de ciment national. Et je crois que c'est pas seulement l'Église parce que c'était la résistance au communisme. Bien sûr qu'ensuite, pendant et après la guerre, l'Église a joué son rôle dans la résistance au communisme. C'est absolument évident. Mais il y avait ce rôle historique. L'Église et la nation ne font qu'un. D'ailleurs, le primat de l'Église polonaise se nommait Interrex. Il était là pour assurer la continuité du pays quand, disons, politiquement, ce n'était pas possible. Mais alors, ça, c'est l'histoire, et c'est donc les racines profondes de ce lien entre catholicisme et nationalisme. Mais, voilà, le communisme n'est plus là depuis 35 ans. On n'est plus... Et puis, il y a la modernisation, l'ouverture de la société. La Pologne s'est considérablement modernisée. Pour ceux qui ont connu la Pologne avant 89... Enfin, c'est méconnaissable, et pas seulement quelques grandes villes, pas seulement, Varsovie ou Poznań ou Cracovie. Non, ce pays a été métamorphosé, transformé par l'effort des Polonais eux-mêmes, mais aussi avec l'aide des investisseurs européens et des fonds européens. La Pologne est un pays qui reçoit dans son budget 3% de son PNB en transfert de ce qu'on appelle les fonds structurels européens. Ben vous savez, sur plus de 20 ans, ça fait beaucoup. Ça a permis de moderniser les infrastructures, etc. Donc, c'est un pays qui est méconnaissable. La société aussi a été transformée par l'ouverture. Et par conséquent, l'Église, qui est une Église très conservatrice, hein, c'est pas l'Église du pape François qui vient de décéder. C'est un euphémisme, ils n'avaient pas beaucoup, je vais dire, l'épiscopat polonais apprécie relativement modérément, faut le dire prudemment, le pape qui vient de disparaître et qui venait d'un autre monde et qui avait d'autres priorités. Donc, le conservatisme de l'Église polonaise, ça a joué un rôle important pendant la période communiste, mais dans la période post-communiste, c'est devenu un frein à son rayonnement ou à son influence. Et alors, dès que voilà, ça a été mentionné, dès que les questions comme l'avortement, etc., sont apparues, ou l'enseignement religieux dans les écoles, etc., eh bien là, on voit que l'Église, de plus en plus, se montre en porte-à-faux par rapport à une évolution considérable de la société polonaise qui va vers la sécularisation, l'ouverture, plus de libéralisme.
Alors, Jacques Krupnik évoquait la modernisation de la Pologne, récipiendaire de fonds structurels européens, ce qui permet de poser la question de pourquoi ce rejet par certains partis en Pologne de l'Union européenne. Mais j'aimerais qu'on aborde et qu'on revienne peut-être sur ce qui a été dit, Pierre Buller, sur le triangle de Weimar qui est de retour, Jacques Krupnik le disait. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Est-ce que c'est sur le plan politique? Est-ce que c'est sur le plan stratégique? Parlez aussi rapidement peut-être, mais parce qu'il nous reste un peu plus de 5 minutes avant la fin de cette émission, mais il y a beaucoup, beaucoup de sujets. La relation aux États-Unis, on sait que la Pologne est l'un des alliés les plus fidèles de Washington en Europe centrale. L'alliance entre Washington et Moscou a été un véritable choc pour la Pologne après l'arrivée de Donald, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, Pierre Buller.
Oui, absolument. Et c'est bon. Alors, ça a été un choc, ça a été ressenti comme tel, de même que la façon dont Zelensky a été traité dans le bureau ovale par le président Trump et son vice-président. Et donc, ça a quand même semé le doute dans l'esprit des dirigeants polonais actuels, enfin ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, mais ils font bonne figure, si je puis dire, enfin, ce que j'observe. Ils ne veulent surtout pas donner le moindre signal critique vis-à-vis des États-Unis pour ne pas tenter le diable. Ils ont une peur bleue d'un désengagement des États-Unis de l'Europe. Ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier et ils soigne également une relation bilatérale polono-américaine en faisant toutes sortes de... Ben déjà, ils sont les meilleurs élèves de la classe de l'Alliance Atlantique, avec des dépenses de défense à hauteur de près de 5% de leur PIB. C'est ce que demandent tous. Donc, ils font vraiment valoir cet effort pour être pris au sérieux, tout en soutenant également l'OTAN, la relation multilatérale. Mais je viens d'entendre à Radosław Sikorski, qui est donc le ministre des Affaires étrangères, qui me parlait de cette relation avec les États-Unis. Il dit, bon, les États-Unis, maintenant, il faut savoir, ils ont beaucoup d'affaires, de maîtresses, mais l'Europe est mariée aux États-Unis. Et nous sommes mariés aux États-Unis. Alors, j'avais envie de rajouter pour le meilleur et pour le pire, mais en tout cas, c'est leur position. Mais ce qui distingue ce gouvernement du précédent, c'est qu'il table sur toutes les alliances et tous les partenariats, et donc notamment, comme le disait Jacques Krupnik, le triangle de Weimar, qui permet une sorte d'alignement des planètes, parce que les trois dirigeants partagent un peu la même vision des choses, mais ils ne s'arrêtent pas là. Comme je le disais un peu plus tôt, ils investissent sur l'ensemble du tableau. Ils placent tous leurs œufs dans ce que j'ai appelé une assurance de sécurité ceinture et bretelle. Au fond, ils cherchent le maximum. D'ailleurs, Donald Tusk a demandé explicitement, d'ailleurs, que la dissuasion nucléaire française s'étende au territoire polonais. On a entendu le président de la République il y a quelques jours répondre d'une certaine façon à ces demandes. Voilà ce que je pourrais dire sur cette relation complexe de la Pologne avec tous ses partenaires.
Parce qu'effectivement, Jacques Krupnik, ce que évoquait à l'instant Pierre Buller, c'est ce traité qui a été signé entre la France et la Pologne il y a quelques jours, la semaine dernière, un traité de coopération inédit avec de très forts enjeux de défense. Et Emmanuel Macron qui a précisé que ce qui avait été décidé conviait l'ensemble des composantes militaires, donc y compris nucléaires, là où Varsovie dépend aujourd'hui du parapluie sécuritaire américain. C'est un traité très important, Jacques Krupnik.
Oui, c'est symboliquement important. Je pense que pour la Pologne, ça fait partie justement de sa Pologne d'assurance multiple. Ça vient d'être, ça vient d'être dit, je pense, très justement. Assurance numéro un, bah, c'est les États-Unis, c'est l'OTAN. Malgré ce qui se passe, malgré Trump, ne rien faire pour donner un prétexte à un désengagement américain. On ne croit plus tout à fait que ce n'est qu'une parenthèse. Quand il y a eu la première présidence Trump, beaucoup se comportait comme si ce n'était qu'une parenthèse. Alors, d'une part, il y avait le gouvernement PiS à l'époque, le gouvernement Kaczynski, alors totalement en phase avec Trump. Et Trump est venu en Pologne à l'époque et les a félicités, les a encensés, etc. Mais beaucoup, même ceux qui n'étaient pas des Trumpistes affirmés, pensaient que c'était une parenthèse, ça allait passer. Là, maintenant, on est quand même, on a plus, le doute s'est transformé en véritable inquiétude. Et donc, par rapport à ça, on a vu que Sikorski, le même Sikorski dit que l'Europe est mariée aux États-Unis, mais le même a quand même dit que on ne peut pas sous-traiter toutes nos questions de défense aux États-Unis. Mmh. Donc il faut construire quand même une dimension européenne de la sécurité et de la défense. Ça, c'est impossible, on le voit, sans la Pologne, le pays qui est le plus exposé, mais aussi le pays qui a la plus grande capacité militaire. Mmh. Hein, c'est aujourd'hui la première, numériquement la première armée, le budget militaire. Et j'allais dire aussi, pour des raisons historiques auxquelles j'ai fait référence, la Pologne est le plus grand pays à l'Est, mais c'est aussi le pays qui a une vraie pensée stratégique. C'est pas faire insulte aux autres de dire qu'ils n'ont pas, pour toutes sortes de raisons qu'on ne peut pas expliquer ici, leur propre vision stratégique de l'Europe, si ce n'est on veut appartenir à l'OTAN pour notre sécurité et on veut appartenir à l'Union européenne pour notre prospérité. La Pologne, elle, a une vision stratégique pour des raisons historiques. Et donc, pour ça, elle est importante en Europe. Et c'est parfois difficile pour les pays qui étaient habitués à, surtout dans le couple franco-allemand, bien sûr, c'est là qu'étaient les grandes connivences. Là, il faut, voilà, il y a un troisième et c'est un enrichissement et ça fait partie de ce qu'on appelle, voilà, le déplacement du centre de gravité au sein de l'Union européenne qui se déplace vers l'Est. Et alors, avec un éventuel élargissement à l'Ukraine, bien entendu, le rôle de cette Pologne-là deviendra encore plus important. Et donc, d'autant plus important aussi de mener le dialogue avec la Pologne sur ces questions de défense, de sécurité, la dimension européenne. Voilà, ce qu'on appelait, ce que les Français, le président français appelait l'autonomie stratégique, la souveraineté européenne, ça c'était des termes qui, il y a quelque temps, faisaient encore peur aux Polonais, pas peur au sens littéral, mais il y avait une inquiétude que c'était une façon d'évaluer l'assurance américaine. Là, maintenant que l'assurance américaine elle-même est en cause, en doute, eh bien, soudain, sans employer forcément les mêmes termes, eh bien, on s'oriente vers cette idée-là. Et voilà, c'est là que la relation franco-polonaise est importante. Mener le dialogue sur ce qui pourrait ressembler à une autonomie stratégique européenne.
Et cette élection présidentielle donc de demain en Pologne est à voir comme un test pour la santé des démocraties européennes dans le contexte des montées des droites souverainistes. Merci Jacques Rupnik. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste de l'Europe centrale et orientale. Vous étiez avec nous par téléphone depuis la Pologne. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et notamment Géopolitique de la démocratisation, l'Europe et ses voisinages au Presse de Sciences Po. Merci aussi à Pierre Buller, également au téléphone depuis Varsovie, ancien ambassadeur de France en Pologne de 2012 à 2016, enseignant de relations internationales à Sciences Po. Son dernier ouvrage, Pologne, histoire d'une ambition, aux éditions Talendier. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Mathias Golchani à la réalisation, Cécile Lavolo et Raphaël Pluxva. Vous êtes bien sur RFI. Restez avec nous. L'actualité se poursuit avec RFI Soir et tout de suite le journal.